Une méthode pour lutter contre l'autisme.
À Digne, la semaine dernière, des conférences et tables rondes ont permis de faire connaître la méthode des 3 I. Le principe de stimulation par le jeu permet à l'autiste d'évoluer, de retrouver des connexions au niveau du cerveau et de sortir de sa bulle pour communiquer. Durant ces journées consacrées à l'autisme, les organisateurs ont déploré l'absence de personnel hospitalier sur des conférences et tables rondes où parents, psychologues et enseignants ont témoigné de leur expérience. Des résultats positifs, visibles, comme au Brusquet, la scolarisation de Djibril, 9 ans, un bel exemple de réussite. Après 3 ans de méthode et la présence d'environ 30 bénévoles en alternance, Djibril s'exprime, communique et a pu intégrer l'école. Avec les témoignages des parents ayant découvert et appliqué la méthode des 3 I, celui aussi de la psychologue et enseignante du jeune Djibril, les parents ont expliqué leur parcours du combattant avec courage et émotion, mais aussi comment ils ont fait face à la situation d'un enfant atteint du syndrome d'autisme. De nombreuses questions du public ont permis un échange intéressant et ont redonné un peu d'espoir à d'autres parents déboussolés. Catherine Delaprelle, présidente de l'association AEVE, Autisme Espoir vers l'école, à l'annonce du syndrome décelé chez son petit-fils, il y a plus d'une dizaine d'années, elle a mené bataille pour lutter contre l'autisme qui, selon elle, n'est pas une fatalité. Après de nombreuses recherches, c'est aux États-Unis qu'elle a découvert une méthode comportementale pour autistes qui semblait faire ses preuves et qu'elle a ensuite importée et adaptée en France. C'est la méthode des 3 I. Mais ça n'est pas la seule et une concurrence réelle existe entre les défenseurs de telle ou telle méthode. Je vous propose d'écouter Catherine Delaprelle, reportage Odile Frison.
Catherine Delaprelle, vous êtes présidente de l'association AEVE, Autisme Espoir vers l'école. Et aujourd'hui, vous êtes intervenue donc toute cet après-midi pour montrer un peu les témoignages de la fameuse méthode, la méthode des 3 I. C'est un peu décevant de voir qu'il y a si peu de monde pour une méthode qui apparemment a fait ses preuves.
Oui, mais ça c'est malheureusement... La presse régionale est très ouverte généralement sur tout ce qui se passe localement. Être plus dans le concret de ce qui marche, c'est moins politique quelque part, plus proche des gens. Donc c'est logique. C'est la presse nationale où effectivement actuellement nous sommes totalement barrés.
Alors comment on explique ça? Si on peut repréciser un peu, est-ce qu'il y a une guerre de méthodes? C'est quand même incroyable.
Oui, il y a une guerre de méthodes. Il n'y a pas 36 méthodes en fait. Vous avez la grosse méthode comportementale qu'on appelle ABA, qui est une méthode qui essaye d'amener l'enfant pas à sortir de l'handicap, mais à se comporter mieux en société par l'apprentissage, apprentissage des bonnes manières, apprentissage scolaire éventuellement, des petites choses de base, mais sans forcément développer le reste, c'est-à-dire la conscience, exister, ou les outils du développement sensoriel, moteur et autres qu'il faudrait à ces enfants. On leur apprend un peu à parler des mots par la méthode PECS, qui est une bière verbale. On leur apprend à dire des mots, mais ce n'est pas des enfants qui vont exprimer avec ce langage-là, tout ce qu'ils ont en eux, il est un langage normal. Donc effectivement, ça peut être une guerre, alors que nous, on est à l'opposé. Pourquoi cette guerre, alors qu'en 2004, il n'y avait pas de méthode en France? C'est très difficile, parce que les médecins ont perdu, justement, il y avait un médecin qui était là, n'ont plus le droit de dire que c'est la faute des mamans. Donc les médecins sont démunis, ils ne sont pas formés du tout à l'autisme pendant leurs études, 3 ans. L'autre jour, à l'Académie de médecine, il disait qu'un médecin avait 3 heures de formation sur l'autisme en 7 ans d'études. Donc les médecins n'ont pas de certitude en matière d'autisme, ni sur l'origine totale de l'autisme, et encore moins sur le traitement de l'autisme. Ils ont pas de les médicaments ne servent à rien, c'est simplement pour les calmer, mais c'est comme de l'aspirine. Voilà, c'est pour les empêcher de nuire, mais c'est pas le traitement de fond n'existe pas. Donc les médecins n'ont rien à dire. Donc qu'est-ce qui a pris le pouvoir en France? Des associations de parents, malheureusement menées par des parents d'enfants autistes, qui ont essayé les méthodes comportementales et derrière lequel il y a tout un business, excuse-moi, lobby important parce que ça coûte très cher. Et puis parmi ces associations, il y en a une notamment qui est dirigée par quelqu'un qui tient une des plus grosses agences de communication, quasiment avec des antennes publiques. Ce qui fait que on est barré à cause de ça. Parce que nous, on est une méthode qui marche, c'est vrai, on ne peut pas le nier, les résultats sont là. Mais effectivement, on emploie, si on peut dire, des intervenants bénévoles. Alors ils disent que ce n'est pas des professionnels, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi servent ces bénévoles-là, vous voyez.
couple, parce qu'on a bien vu, il faut une trentaine de bénévoles par famille, on va dire.
Voilà, c'est ça. Ce bénévole, ou ça peut être des professionnels qui fassent jouer l'enfant, du moment qu'ils sont formés à la méthode. Mais c'est parce que les professionnels coûtent très cher de faire jouer un enfant. Une heure et demie, on est fatigué au bout d'une heure et demie. Donc tout professionnel devra s'arrêter, il en faudrait un autre. Et puis encore un autre. Au maximum, vous faites une séance par jour, par enfant, c'est pas possible autrement. Deux séances par jour, c'est possible pour un professionnel, c'est pas deux fois les mêmes enfants. Donc il faudrait quantité de professionnels, il faudrait beaucoup de moyens.
Alors pour résumer un peu cette méthode, donc c'est beaucoup de stimulation par le jeu dans un lieu sécurisé, adapté à l'enfant pour qu'il ne soit pas trop sollicité par l'extérieur. Il y a un système de fermé à clé avec le bénévole pour jouer et c'est le bénévole qui va essayer de rentrer dans la bulle de l'enfant.
C'est ça, fermé à clé, on n'en parle pas, c'est pas vraiment à clé en plus. Non, mais l'enfant est très heureux dans sa salle de jeu, donc il ne se sent pas du tout lui enfermé. Et il est très heureux parce que ces enfants-là ont très peur d'être seuls face à eux-mêmes. Et donc, le bénévole qui est en face d'eux, il l'accueille comme un sauveur. Ils y sont beaucoup mieux, ils s'apaisent, même si certains jours, ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas supporter qu'ils ne viennent pas. Hein, ils aiment beaucoup cette salle de jeu dans laquelle ils ne souffrent plus du tout. Il n'y a pas de contraintes qui les angoissent, il n'y a pas de souffrance sensorielle, il n'y a pas d'exigences qu'ils ne peuvent pas remplir, parce que c'est souvent ça, on leur demande de faire des choses à l'école ou au IME ou ailleurs qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis, il y a beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de monde dans les endroits collectifs.
Alors justement, vous parliez de l'hypersensibilité sensorielle. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est propre à chaque autiste ?
Alors là, il y a un point commun entre tous les enfants du spectre autistique, qu'ils soient Asperger, qu'ils soient autistes sévères. Tous ont en eux cette hypersensibilité des cinq sens, on dit hyperconnectivité, et leur cerveau est comme une cocotte minute sensorielle. Et qui par moment explose. Donc c'est dire qu'ils ont un sensoriel de bébé, de nourrisson dans un corps qui en grandit. Ils entendent les ultrasons comme les nourrissons. Ils n'entendent pas la voix humaine quand elle parle comme ça, comme les nourrissons. Ils entendent la musique classique comme Mozart ou Beethoven, comme les nourrissons. Ils voient en détail comme les nourrissons. Ils ne voient pas la globalité du visage. Nous, les enfants en salle de jeu, on les voit repasser par le stade où ils nous touchent le visage pour en découvrir la globalité. Et leurs cinq sens, si vous voulez, sont tellement en hyper, qui mis dans un monde normal de vie, c'est insupportable, aussi bien à l'extérieur. Du coup, ils vont aller s'enfermer dans une bulle, dans des objets. Ils sont en plaisir sensoriel dans leur bulle. Ils ne mettent que des choses agréables qu'ils voient repasser ou qu'ils entendent. Et du coup, ils se coupent du monde, ils se coupent de nous. Et pour moi, l'autisme, le repli est sûrement dû à une coupure sensorielle. Vous voyez, ils se mettent en hypo. Ils sont obligés parce que sinon ils n'arrivent pas à vivre, donc ils se coupent de nous.
On peut dire qu'ils sont en extrême souffrance s'ils ne sont pas traités ou...
Ils sont tous en extrême souffrance, ça ne se discute pas. Alors certains utilisent beaucoup de stratégies pour pouvoir survivre et être comme nous, mais ça les fatigue, ça les épuise, il y a des moments où ça craque. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils se coupent à nouveau du monde, ils font beaucoup de stéréotypies pour compenser l'immense effort qu'ils ont fait avant. Les stéréotypies ou les obsessions, c'est la mesure de leur angoisse. Ça traduit, ils compensent. Ou alors ils s'auto-stimulent sensoriellement pour se couper d'eux parce qu'ils sont bien, ça leur fait plaisir. Comme ça, voilà. Et quand on les voit s'ouvrir à nous, c'est qu'il n'y a plus de souffrance. Là, ils sont bien, ils se lâchent.